Quelle relation l'État entend-il bâtir avec le secteur associatif ? La question mérite d'être posée, notamment du fait du glissement autoritaire à l'œuvre actuellement. On peut bien sûr évoquer le projet de loi sur le séparatisme, renommé « projet de loi confortant le respect des principes de la République », projet de loi en cours d'étude au Parlement. Et puis, très immédiatement, on peut également évoquer les différentes chartes, les différents contrats que l'État, la région, la CAF font parvenir aux associations en leur demandant de s'engager sur le respect des valeurs de la République et du principe de laïcité. Nous avons souhaité en discuter avec Laurent Zaderatsky, investi au sein de l'association d'éducation populaire Culture et Liberté et au sein des instances régionales du réseau Le Mouvement Associatif.
Bonjour à toutes et tous. Merci de m'accorder un peu de votre temps. Envie de partager avec vous la question de la laïcité et de la floraison des chartes qui sont exigées du monde associatif, de ses acteurs aussi bien salariés que bénévoles. La dernière en date vient donc des services de l'État, qui fait suite à la loi portant sur pour conforter les valeurs de la République, où le monde associatif, dans sa grande majorité, était contre cette loi, puisqu'on considérait que c'était une mise en danger de la liberté associative et de l'engagement des bénévoles sur des responsabilités associatives. Nous sommes un certain nombre d'associations à avoir reçu, donc de la part des services de l'État, une charte de respect des valeurs de la République et du principe de laïcité. Pour la plupart d'entre nous, la laïcité fait partie intégrante, c'est dans l'ADN même de nos associations. Ça fait partie de nos statuts et c'est notre quotidien. Là, ce qui nous préoccupe, déjà, je peux vous dire qu'un certain nombre, on est déjà à devoir signer au moins 4 chartes avec pas les mêmes contenus, mais appelant à ce même respect de la laïcité, que ce soit via la CAF, via le Conseil régional, via l'Éducation nationale, et là, donc, maintenant, via l'État. Notre inquiétude est plus que forte, puisque sur cet aspect, on demande un certain nombre d'engagements et de nouveau, le présupposé établi est celui de la défiance, puisque nous avons à justifier. On nous confie de l'argent public, on doit rendre des comptes sur cet argent public confié, et ça c'est normal. Que là, sur la laïcité, pour un certain nombre d'entre nous, ça fait vraiment partie de nos combats. On nous demande à respecter un certain nombre de choses, sur lesquels on est d'accord, sur par exemple l'égalité femmes-hommes, promouvoir une culture du respect de la compréhension de l'autre, on ne peut être que en accord. Par contre, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est ce glissement qui se fait nous assimilant petit à petit à en fait des services publics. Alors que je rappelle, les associations ont un statut loi 1901. Juridiquement, on a un statut d'entreprise. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, on a ce cadre-là juridique. Mais nous ne sommes pas des services publics. Parfois, nous remplissons des missions de service public parce que le service public, parfois, c'est désengagé. Donc effectivement, on a pris ça. Mais nous, ce qui nous inquiète, c'est vraiment cette atteinte aux libertés associatives dans un contexte ou militer, revendiquer des choses est de plus en plus difficile.
Alors justement, qui est-ce qui est visé ? On peut estimer qu'il y a des associations cultuelles, avec peut-être une petite dose d'islamophobie derrière, mais aussi peut-être des associations d'éducation populaire, autrement dit celles qui ouvrent à l'esprit critique des hommes et des femmes, qui sont peut-être aussi visées par ce type de procédé.
Je ne sais pas si on est directement visé en tant qu'association d'éducation populaire. En tous les cas, ça ouvre la porte à ça, pour les associations d'éducation populaire aussi. Aujourd'hui, si on veut exercer un contrôle sur une association, qu'elle soit cultuelle ou pas, parce qu'elle irait contre les valeurs de la République et de la laïcité, il y a déjà tout l'arsenal législatif possible et imaginable qui existe. Donc les contrôles, ils pourraient déjà se faire sans avoir besoin d'instaurer ce climat de défiance et de méfiance systématisé.
Alors du côté des associations, justement, est-ce que il y a un effet de sidération, hein, ça on peut bien l'imaginer, mais est-ce qu'il y a une riposte? Est-ce qu'il y a un front qui se dégage? Qu'est-ce qui se passe?
Alors déjà, au niveau de la loi sur les valeurs de la République, il y a déjà eu des actions communes des grands mouvements d'éducation populaire autour de plaidoyers, que ce soit le CNAGEP, le LMA ou encore d'autres avec l'UNIOPS ou le CNOS pour les organisations sportives. Ça, il y avait déjà eu une alerte par rapport à cette loi. Là, aujourd'hui, ce qui se fait, c'est qu'au niveau, par exemple, du mouvement national, il y a des interpellations via des lettres qui se font, comme par exemple aussi, donc là, c'est une sorte de front. Effectivement, c'est collectivement, on essaye d'alerter et d'interpeller. Alors là, c'est le préfet de région qui va être interpellé, ou quand il s'agit du conseil régional, c'est le président du conseil régional qui est interpellé. En tous les cas, il y a des réactions. On ne reste pas... Alors, c'est vrai que l'effet de sidération est là. Le contexte de crise sanitaire entraîne des lois qui déboulent très, très vite, qui sont très dans l'émotionnel. Et souvent, ce n'est pas un bon conseiller, cet émotionnel. Et puis, il y a des réactions, par exemple, sur le collectif des associations citoyennes. Et là aussi, mobilisés, il y a des juristes qui sont très pointus et qui sont toutes mobilisés pour avoir une réponse collective.
Alors justement, par rapport à ces associations, à ces petites et grandes d'ailleurs, hein, tu évoquais le fait qu'on était de plus en plus... finalement prestataire dans un domaine de type service public, avec, on se rend compte quand on lit un petit peu les appels à projets, une volonté de co-construire, hein, le mot co-construction il revient en permanence entre l'État, les collectivités et les associations. Est-ce que ça justement, cette co-construction, le fait d'être associé en tant que partenaire ou en tant que prestataire de service de type service public, est-ce que pour les associations, ça n'a pas gommé quand même les aspects de conflictualité, les aspects de rapport de force avec l'État ou avec d'autres instances qui aujourd'hui nous coincent un petit peu finalement.
Je crois que là-dessus, le moment où on est passé du mode subvention au mode appel à projet, le premier effet, ça a été de mettre les associations en concurrence entre elles. Il y a de la place pour tout le monde pour agir, pour transformer, pour mobiliser. L'appel, alors je ferai la différence sur un certain nombre de missions, mais globalement l'appel à projet, on n'est plus forcément dans l'écriture et l'invention qui émanerait au départ de l'association, mais plus dans une réponse à une commande publique, un peu quelque part. Là-dessus, je crois qu'on continue de toute façon à être plusieurs, à être mobilisés pour revendiquer le fait de revenir au mode de subvention où il y avait un système finalement d'enveloppe globale à partir du moment où l'association présentait des projets et ensuite elle dispatchait sur là où étaient ses priorités. Donc là, aujourd'hui, c'est rendu plus difficile. Et puis, il y a de nouvelles strates d'organisation avec de nouveau des systèmes appel à projet, appel à manifestation d'intérêt. Enfin, je crois que les personnes et les bénévoles et les salariés qui sont engagés dans l'associatif, ça va leur parler beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai que je pense que on a peut-être, nous... pas suffisamment insisté auprès des personnes avec qui on fait les actions sur cette transformation au niveau de comment les associations aujourd'hui fonctionnaient. Parce qu'en fait, on est dans l'action, tout simplement, et que souvent, on prend sans doute pas suffisamment le temps d'expliquer ce fonctionnement. Ça, je pense que c'est quelque chose que collectivement, on peut aussi avoir comme point de vigilance, que ce soit dans le club de foot, que ce soit dans le club de pétanque ou que ce soit dans une association d'éducation populaire.
Alors une dernière question. On va revenir un petit peu sur ces chartes que nous envoient l'État et les instances régionales et autres d'ailleurs. Tu avais envie peut-être de faire une comparaison entre la sphère associative et puis le monde de l'entreprise.
Oui, alors ça c'est le résultat un petit peu des réflexions collectives qu'on a pu avoir sur les différentes chartes qui nous sont arrivées. C'était de nous dire, à nous, acteurs associatifs, on nous demande donc de rendre des comptes sur comment on met en œuvre la laïcité dans nos actions. Mais parce que on a pour un certain nombre de l'argent public qui arrive. Dans la crise sanitaire qu'on a traversée, le monde de l'économie et le monde des entreprises a reçu beaucoup d'argent et on s'interrogeait en se disant, est-ce que ce monde économique a lui aussi à rendre des comptes ? Pour l'instant, les retours qu'on a, c'est qu'a priori non, mais ce sera à creuser.